Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay, you know, it's okay.
C'est une épopée positive que nous allons essayer de vous transmettre à travers les ondes cette semaine. En ces temps troublés, il est de bon ton de chercher le réconfort, la bienveillance et la générosité. Notre invité du jour est sûrement le meilleur messager dans ce domaine, puisque depuis facilement 40 ans, il ne cesse de porter la bonne parole à travers ses disques, ses propos, son engagement citoyen et son ouverture d'esprit. Souhaitons la bienvenue à Kirk Whalum. Welcome.
Salut, merci bien. Je suis complètement ravi d'avoir l'opportunité de jouer le saxophone et partager ma vie avec les Français, avec tous.
Vous venez de le dire, vous êtes saxophoniste, compositeur, arrangeur. Vous êtes natif de Memphis, oui. Tennessee. Et vous avez façonné au fil des décennies votre propre musicalité qui a séduit des personnalités de renommée internationale. Je pense à Quincy Jones, Al Jarreau, Aretha Franklin, Whitney Houston, Luther Vandross, Marcus Miller, George Benson, etc. etc. Sans oublier votre propre discographie qui compte une bonne vingtaine d'albums, dont le dernier, Love Covers, qui a ouvert cette émission. Quelle est l'intention de ce disque?
Hashtag Love Covers. C'est vraiment une œuvre de cœur. C'est ce qu'on espère, de partager l'amour de Dieu au travers de la musique. Tout le monde a besoin de la sagesse, la force. C'est ce que je désire de partager au travers de ma musique.
Sur ce disque, vous adaptez des œuvres de Marvin Gaye, oui. Bill Withers, Beyoncé, que nous écouterons d'ailleurs en fin d'émission, ou encore Edwin Hawkins, qui avait immortalisé le fameux Oh Happy Day. Ouais. Est-ce que la musique a le pouvoir de contrer les forces du mal et de changer le cours de l'histoire?
Oui, mais c'est bien noté, c'est l'histoire de la musique. C'est que toujours la musique change, il touche, c'est puissante la musique. Dans ma vie, ça a changé beaucoup de mes façons de penser. Et aussi, la musique ne peut pas être rejetée vraiment. Même si nous ne sommes pas d'accord, la musique peut dépasser tout ça et entrer dans le cœur. Et pour moi, ça nous donne l'opportunité de toucher le monde. Et oui, c'est ce que j'essaie de faire, ça fait quelques ans, je crois 40 maintenant. J'arrive à 60 le mois de juillet. Donc oui, ma première expérience avec la musique, c'était ça. Ça m'a changé.
Étant originaire de Memphis, oui. J'imagine que le gospel et les Negro Spirituals font partie de votre identité culturelle. Oui. Qui écoutiez-vous quand vous étiez gamin ?
Bon, j'étais vraiment impressionné par la musique de vieux gospel. Et mon père était pasteur, donc la musique dans l'église même, c'était le premier qui m'a vraiment touché. Et j'ai commencé vraiment le saxophone après tout ça. J'ai commencé le saxophone à 12 ans. Mais avant ça, j'avais envie de faire la musique, n'importe instrument, n'importe quoi. J'ai chanté. Mais à 12 ans, j'ai commencé le saxophone parce que j'ai entendu deux mecs. Premier, c'était mon oncle qui s'appelle Peanuts, cacahuète. Et l'autre, c'était Hank Crawford.
Très bien. Ouais. Hank Crawford qui a longtemps joué avec Ray Charles.
Et voilà. Tous les deux, ils avaient le pouvoir de bouger l'audience comme ils parlent, ils chantent à travers du saxo. C'était pas vraiment comme un instrument, c'était plutôt comme une voix. Et pour moi, ça m'a vraiment donné une manière de poursuivre.
Vous êtes né en 1958, vous le disiez, oui. Vous allez avoir 60 ans cette année. Oui. Quel souvenir avez-vous de la ville de Memphis durant votre jeunesse ?
Mes premiers souvenirs étaient mélangés de bons et tristes. J'ai commencé à apprendre ce qui est le paradoxe de Tennessee, de Memphis, des choses qui sont miraculeuses, mais des autres choses qui étaient vraiment tristes et dures. C'est pour ça que je suis allé, comment dire, j'ai quitté Memphis quand j'avais 18 ans, en disant au revoir pour toujours. Mais ma femme et moi, j'ai fait la connaissance de ma chérie quand j'avais 15 ans. Donc, on est partis ensemble, mais on est revenus il y a 10 ans comme adultes, avec une perspective plus adulte. Comme ça, on a vu un Memphis complètement différent et beau et incroyable, plein de gens incroyables, plein de la musique, bien, les racines de toute la musique dans le monde populaire. Et donc, pour nous, on est très, très contents d'avoir revenu à chez nous.
Donc, la ville a beaucoup changé. Est-ce que les tensions que vous aviez senties dans les années 60 existent toujours ?
Ils existent, mais sont différents parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent à Memphis parce qu'ils veulent. Et il y a beaucoup de monde qui habitent là-bas qui ne sont pas de Memphis. Donc, c'est mélangé de beaucoup de gens de toutes parts. Mais aussi, je crois que les gens, ils ont le désir d'améliorer cette ville incroyable parce que l'âme de cette ville n'a pas changé. C'est une ville incroyable. Et on peut écouter, heureusement, cette âme au travers de beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, de Stax, de High Records, de blues et tout, parce que c'était vraiment, on peut dire que Memphis, c'était le New York de le monde musical à cette époque. Tout le monde de Mississippi, Alabama et tout, ils essayaient de réussir à Memphis.
Depuis cette époque, vous avez développé une tonalité musicale qui emprunte au gospel, à la soul, à la pop, au funk, et les plus grands vous ont sollicité, comme par exemple Al Jarreau.
Is this bird for you?
Killer Love, Al Jarreau en 1988, avec au saxophone notre invité du jour, Kirk Whalum. Vous avez un grand respect pour vos aînés. Sur chacun de vos albums, il y a un clin d'œil aux grandes figures de l'épopée des musiques noires. Est-ce que vous avez le sentiment de devoir perpétuer la tradition de vos héros ?
J'essaie. Oui, c'est un fardeau. Hein. Mais c'est-à-dire que quand je joue, vraiment, je parle d'eux et je parle avec eux. Et aussi, je me souviens bien que la vie de mon héros principal, Arnett Cobb. Et Arnett était, j'ai fait sa connaissance quand je suis allé à l'école, un collège en Houston, Texas. Et j'étais ravi de jouer un peu pour lui et dire, alors, Monsieur Cobb, laisse-moi jouer un peu. Donc, j'ai commencé. Et puis, il m'a dit, OK, arrête. Il m'a dit, OK, c'est bien, tu joues beaucoup de notes, mais tu dis rien du tout. Tu ne communiques pas une seule chose. Et ça m'a tué. Hein. Mais en même temps, je savais qu'il était en train d'ouvrir ma tête, mon cœur, pour savoir que ce n'est pas simplement les notes, ce n'est pas simplement les leçons, les gammes. Quoi. C'est qu'est-ce que tu veux communiquer.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Et voilà, qu'est-ce que tu dis? Et oui, ça m'a changé. Hein. Et à ce moment, je reçois pas mal des appels des vedettes comme Quincy Jones. Et il appelle des gens pour qui ils sont. Et pour moi, petit saxophoniste, il représente. C'est effrayant, mais en même temps, c'est vraiment un honneur parce que j'aurais dû faire ce que je fais. Mais je pratique beaucoup, je fais la répétition beaucoup. J'essaie d'être le meilleur Kirk Whalum que je puis. Mais je vais, quand je te laisse plus tard, je vais faire la répétition aussi.
Est-ce que le rock'n'roll d'Elvis Presley, que vous avez forcément entendu à Memphis durant votre enfance, entre dans les musiques profanes ou sacrées?
Pour moi, je ne fais pas de différence parce que je crois que c'est la même chose. Tout ça sort de notre âme. Et je crois que la musique d'Elvis, c'est un paradoxe. On peut dire que sa musique, vraiment, ce n'est pas rock'n'roll. C'est vraiment ce qu'il a entendu dans les églises à Memphis et en Mississippi. Mais il ajoute simplement un peu différents rythmes. Il ajoute peut-être ce qu'il expérimente au moment. Mais non, c'est pas profane.
Nous recevions il y a peu dans cette émission les Como Mamas, from Como, Mississippi.
Oh,
et elles nous disaient qu'elles écoutaient justement Elvis Presley sur WDIA, la radio de Memphis, parce qu'il chantait des traditionnels gospel.
Voilà. Mon amie Didi Bridgewater m'a dit qu'elle est née à Memphis, mais à 3 ans, ils ont déménagé près de Detroit. Mais elle pouvait toujours écouter ce WDIA. J'écoute la plupart du temps cette musique dans les années 60, 70 de Memphis, WDIA, the oldies station.
C'est ça. Ouais. Vous avez en tout cas adapté récemment un classique d'Elvis Presley, Don't Be Cruel, pour l'album de Didi Bridgewater que vous mentionniez il y a un instant. Comment s'est-elle approprié ce standard rock'n'roll?
Elle m'a dit que, écoute, je veux dire d'abord que j'ai fait sa connaissance ici à Paris. C'était en 1991, parce qu'on était là avec des enfants et drop off my kids à l'école.
Vous veniez de déposer
mes enfants. Et voilà, Didi Bridgewater. Je me suis dit, écoute, je sais qu'elle est, c'est Didi Bridgewater. Excusez-moi, madame, je suis saxophoniste. Alors, je crois que j'ai entendu. Et on est des amis, ça fait presque 30 ans. Mais il y a 2 ans qu'elle m'a dit, j'ai envie de revenir chez moi, à Memphis. Et pour elle, ça, c'est ses racines et la musique de WDIA, vraiment. Elle a grandi sur cet esprit. So, elle m'a demandé, il faut que tu m'aides pour vraiment trouver les bonnes chansons, trouver les bons musiciens de Memphis, toujours. Et oui, c'était une expérience très riche. Et toujours, je texte à Didi et je lui dis merci pour cette opportunité.
Écoutons vos arrangements et la voix de Didi Bridgewater sur ce titre d'Elvis, Don't Be Cruel. Thank you. Cruel, Didi Bridgewater sur l'album Memphis, Yes I'm Ready, soutenu par les arrangements et le saxophone de Kirk Whalum qui coproduit cet album. Il y a 10 ans, Didi Bridgewater s'était rendu au Mali pour essayer de retrouver ses racines ancestrales. Oui. Vous revenez vous-même du continent africain. Où étiez-vous et que faisiez-vous là-bas?
Oui, donc je visite beaucoup, je passe par l'Afrique du Sud presque chaque année, mais aussi Kenya et Nigeria, Mozambique, Ghana, Uganda, beaucoup. J'ai pas visité, pas encore, la côte ouest de l'Afrique comme le Congo et Côte d'Ivoire. J'ai envie. Mais maintenant, je fais un disque, un projet, aussi un film qui s'appelle Humanité. En fait, en français, nous disons Humanité. C'est le titre. Et ce sont des connexions avec ces cultures, avec ces musiciens. Nous faisons des collaborations. Japon, Indonésie, India, Angleterre, et beaucoup. Et aussi, oui, l'Afrique, Kenya. Et avec l'Afrique du Sud, on a enregistré déjà 6 morceaux. Et nous sommes très contents. Et aussi, j'ai avec moi presque tout le temps un filmmaker qui s'appelle Jim Hannon, et on espère toucher tout le monde avec ce qu'on a ensemble, ce qu'on a en commun. Et ça, c'est très important maintenant dans cette époque, parce que nous avons aux États-Unis un idiot dans la Maison Blanche, et donc ce que nous essayons, pas seulement moi mais beaucoup de musiciens, mes amis, nous essayons de adresser ça avec nos cœurs, to highlight, de
mettre la lumière sur
quelque chose. Mettre la lumière sur les choses qu'on a ensemble.
Est-ce que vous avez eu le privilège, lors de vos précédents voyages en Afrique du Sud, de rencontrer Nelson Mandela?
Au fait, j'ai fait sa connaissance à la Maison Blanche.
D'accord.
Oui, il y a des années, j'étais en tournée avec Whitney Houston. Et à ce moment, elle a fait une soirée à la Maison Blanche pour M. Clinton et M. Mandela. Et j'ai chez moi, nous avons chez moi une photo de ce moment avec ces deux présidents. Clinton était en train de toucher mon saxophone pour demander quelle marque, et blablabla, est-ce que c'est le Selmer? Je me suis dit non, c'est un Carver. et même à ce moment-là, Mandela, il a bougé la main du président Clinton et m'a adressé personnellement. Et il m'a dit, this was a great concert. You are great, you sound wonderful. And c'était même... À ce moment, je me suis dit, oh Dieu, j'ai besoin d'une photo de ce moment, mais ça n'existe pas, oh, désolé. Mais j'avais un ami qui travaillait pour le vice president.
Pour le vice-président.
Le vice-président, et ils m'ont donné cette photo, et c'est précieux à moi. Et Mandela, j'ai lu trois bouquins de lui, et, trois livres, et il est mon héros. Il est un des héros, comme Martin Luther King, Gandhi. Et je suis reconnaissant pour avoir fait sa connaissance.
En juillet 2018, Mandela aurait eu 100 ans.
Oui.
Est-ce que vous envisagez un concert spécial à cette occasion?
J'ai envie, en fait, j'ai fait un morceau avec Ladysmith Black Mambazo.
Wow.
C'était un morceau écrit pour O.R. Tambo. C'était lui qui a vraiment écrit la constitution de la nouvelle Afrique du Sud. Donc, ce morceau, j'espère que ça sort bientôt. Mais oui, j'ai envie de faire quelque chose pour le centenaire, on dit?
Oui.
Centenaire du grand Monsieur Mandela.
L'autre grande figure du peuple noir s'appelle Martin Luther King, dont on commémorera le 50e anniversaire de la disparition le 4 avril 2018. Est-ce que vous serez à Memphis à cette occasion? Est-ce que vous avez prévu de participer aux hommages qui lui seront rendus?
Oui, en fait, je fais à ce moment trois concerts pendant cette célébration. Un avec l'orchestre, l'autre avec mon jazz band et l'autre avec des chœurs. Trois fois, je vais participer. Il faut se souvenir que moi, je me souviens très, très, très bien quand il est mort. J'avais 9 ans. C'était très, très dur pour moi. Donc, pour moi, ces 50 ans, ça représente une impression dans mon cœur pour ça.
Qu'est-ce qui réunit pour vous Martin Luther King et Nelson Mandela?
C'est qu'ils avaient le courage, on dit, le courage de « forgive ».
De pardonner.
De pardonner. Il avait le courage de pardonner. Ça, c'est grand, grand, grand pour moi. Et Mandela, il a dit que nous devons avancer dans l'avenir ensemble. Nous sommes plus forts ensemble. Et Martin Luther King, à mon avis, doit être béatifié.
On peut en effet dire que ces deux icônes mettaient l'amour.
Oui.
Au sommet de leur priorité, Love on Top, comme vous le diriez vous-même, Kirk Whalum.
Et voilà.
Love on Top, Kirk Whalum dans l'épopée. Top, extrait du dernier album en date de Kirk Whalum intitulé Love Covers. Merci Kirk Whalum d'être passé à Paris avant de rejoindre les États-Unis.
Oui, c'est mon plaisir et merci Monsieur Farmer. I love this English name, Farmer.
Je rappelle que Love Covers est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales et que vous serez donc le 4 avril prochain à Memphis au Musée des droits civiques pour saluer la mémoire de Martin Luther King.
Et voilà.
L'occasion pour moi de vous signaler qu'à partir de la semaine prochaine et pendant tout le mois d'avril, nous vous proposerons des épopées spéciales consacrées à la musique des droits civiques 50 ans après la disparition du pasteur King. Et c'est évidemment Nathalie Laporte qui réalisera ces émissions, comme elle le fit aujourd'hui avec brio. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal. Et mes félicitations vraiment, Kirk Whalum, pour votre français. Vous êtes parfait.
Ah, pas parfait du tout, mais merci, je sais.